20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons bioéthique dans l'atome de savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
On parle de science, mais aussi d'éthique et de droit ce soir sur Radio Campus Paris. Pour notre rentrée, nous avons choisi de parler d'un sujet qui a animé l'été 2020. Et non, il ne s'agit pas du coronavirus. Ça, je pense qu'on en parle bien assez, mais de la révision de la loi bioéthique qui réglemente la procréation médicalement assistée, mais aussi bien d'autres choses, nous le verrons. Pour cela, nous recevons Jennifer Merchant, enseignante-chercheuse à l'université Panthéon à Sas. On l'a dit, c'est la rentrée, alors on reprend les bonnes habitudes. Tout à l'heure, Guillaume nous tiendra au courant de l'actualité scientifique et en fin d'émission, Lou vulgarisera le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Il y a tout de même une nouveauté, vous le savez, nous sommes étudiants et cette année, Jade est en Erasmus en Suède, ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire de la radio avec nous et donc de vous parler aussi de bioéthique aujourd'hui. Bonsoir Jade. Le collectif Marchons Enfants va manifester ce samedi contre la nouvelle loi bioéthique qui est toujours en discussion au Sénat.
Et oui Gaspard, la nouvelle loi sur la bioéthique n'est pas au goût de tout le monde, étant donné les avancées majeures qu'elle promet. Avant tout, faisons un petit retour en arrière. La première loi sur la bioéthique a été promulguée en 1994. Il est alors prévu qu'elle soit révisée assez souvent pour s'accorder aux évolutions de la société. Pourtant, ce n'est que 10 ans plus tard que la deuxième loi sur la bioéthique est promulguée. Cette loi assouplit la précédente et permet un certain nombre de choses. Avec cette loi, on revient sur l'interdiction des recherches sur l'embryon humain. Ces recherches sont autorisées si elles permettent des progrès thérapeutiques majeurs et l'on crée des nouvelles catégories de crimes, notamment le crime contre l'espèce humaine. Aujourd'hui, une nouvelle loi sur la bioéthique est discutée. La question principale concerne la PMA, la procréation médicalement assistée. À qui devrait-elle s'adresser ? Pour le moment, la PMA n'est accordée qu'aux couples hétérosexuels qui rencontrent des difficultés à procréer en raison d'une stérilité pathologique et médicalement constatée ou parce qu'en raison d'une maladie, le couple ne peut procréer sans risque. Risque de transmettre cette maladie au conjoint ou à l'enfant. Il existe plusieurs techniques de procréation médicalement assistée, l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Il est possible d'utiliser les gamètes du couple ou de faire appel à un donneur dont l'identité ne peut être connue ni des parents ni de l'enfant. Pour le moment, la nouvelle loi sur la bioéthique va faire évoluer ses précédentes règles. Le projet de loi est en deuxième lecture au Sénat depuis le 3 août 2020. À la suite de cette lecture, une commission mixte devrait s'ouvrir. Ce projet de loi prévoit tout un ensemble de nouvelles règles applicables. Tout d'abord, la nouvelle loi a pour objectif d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Désormais, les couples de femmes ainsi que les femmes seules pourraient demander à bénéficier de ces méthodes. La composante médicale, à savoir l'infertilité ou la maladie transmissible, n'est plus une condition. Le projet de loi ouvre aussi d'autres perspectives en lien avec la PMA. Et oui, il est question de permettre à l'enfant conçu par PMA d'accéder à l'identité de son donneur à ses 18 ans. Bien sûr, pour éviter le transhumanisme et l'eugénisme, les parents ne peuvent pas demander l'identité du donneur. Il est aussi question du financement de la PMA, qui avant a été remboursée par la Sécurité sociale et qui visiblement continuera de l'être pour les couples hétérosexuels souffrant d'infertilité ou ayant une maladie transmissible. Ensuite, la nouvelle loi sur la bioéthique se penche sur des questions nouvelles, comme par exemple celle du sexe à la naissance pour les enfants intersexes, des dons croisés et bien sûr de la recherche avec notamment des nouveaux délais de conservation des embryons. Les débats parlementaires ont quand même exclu certaines questions du débat en s'y refusant. En effet, la pratique du diagnostic préimplantatoire, une méthode qui consiste à vérifier l'embryon avant de l'implanter, pour être sûr que le bébé n'a pas de maladie, a été rejetée par le Sénat. Quant à la PMA post-mortem, lorsqu'un des deux parents décède avant le début de la procédure ou durant la procédure, son refus a quasiment été une évidence. Cette nouvelle loi nous amène à nous poser plusieurs questions. Déjà celle de savoir si la France aurait un train de retard sur ses voisins européens, ce qui revient quand même assez souvent dans les débats. Il est vrai que de nombreux pays européens, comme la Suède, autorisent depuis longtemps la PMA pour les couples composés de deux femmes. L'Espagne, quant à elle, autorise même la PMA post-mortem. Au-delà du retard, de nombreuses questions juridiques sont posées, avec par exemple la mise en place de la reconnaissance préalable de maternité que pourra faire la mère qui n'accouche pas auprès du notaire. Seulement, le plus gros des questions et des débats se concentrent autour de l'éthique. De nombreuses associations, souvent conservatrices, ne peuvent concevoir l'idée d'un enfant sans père. Mais au-delà de ça, se pose la question du droit à l'enfant. Déjà, existe-t-il un droit à l'enfant ? Et bien sûr, la question très sensible de la gestation pour autrui. Ces débats sont très intéressants et il peut être parfois compliqué d'avoir un avis tranché sur le sujet. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser avec nos invités est de savoir si cette nouvelle loi est une porte ouverte au transhumanisme.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
Bonsoir Jennifer Merchant.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et vous travaillez depuis 25 ans sur les enjeux sociopolitiques de la bioéthique.
Oui.
Alors, on va commencer tout de suite, pardon.
Excusez-moi, est-ce que je peux apporter une petite précision à ce qui vient d'être dit par votre collègue dans l'introduction ? Concernant l'analyse pré-implantatoire qui a été retoquée, refusée par... lors des différents passages entre l'Assemblée et le Sénat, il ne s'agit pas d'analyser, le terme a été utilisé, je crois, de bébé, il s'agit d'analyser des embryons avant de les transmettre dans l'utérus de la femme pour s'assurer que ces embryons sont viables. Parce que, par exemple, en Angleterre, on fait ça depuis longtemps, on écarte ainsi des embryons de quelques cellules, n'est-ce pas, qui présentent des anomalies chromosomiques. Et beaucoup de médecins en France demandent que cela puisse être accepté, légalisé en France, puisque ça éviterait des grossesses qui se terminent en raison de ces problèmes de l'embryon. Et je voulais juste préciser qu'il s'agissait bien d'embryons et pas de bébés.
En fait, c'est le diagnostic préimplantatoire, si j'ai bien compris. C'est pour éviter d'aller jusqu'à un avortement si on remarque... lors d'un DPN, diagnostic prénatal, si on remarque des anomalies sur l'embryon quand il est beaucoup plus développé.
Oui, c'est ça. Mais ce que demandaient aujourd'hui les médecins, c'était d'aller de faire un pas en plus, c'est-à-dire lors d'une PMA. Lorsqu'un couple hétérosexuel ou homosexuel a besoin d'une PMA, on crée les embryons in vitro. Et ensuite, le médecin, avec une simple analyse clinique, mais pas génétique, choisit l'embryon qui lui semble être le plus apte à être implanté. Là, ce que demandaient les médecins, c'était d'aller un pas de plus et de faire une analyse génétique, parce que souvent des embryons, pas souvent, mais il arrive que les embryons qu'on crée in vitro ont des anomalies chromosomiques qui... justement, empêche soit l'anidation, soit le bon déroulement de la grossesse après. Donc, ce qu'il demandait, c'était, comme on fait en Angleterre, de faire cette analyse génétique avant l'implantation, pour choisir l'embryon qui n'a pas ces mauvais chromosomes.
Et donc ça a été refusé donc par...
Voilà, exactement. Ça a été refusé car, évidemment, on voit bien qu'il y a une volonté de sélection et de tri. Mais cette sélection est basée sur l'espoir, la volonté de mener pour que la femme mène une grossesse à terme, non pas pour sélectionner tel ou tel aspect, yeux, couleurs, etc. C'était vraiment pour dans un espoir de transférer des embryons les plus capables de se développer en fœtus et puis en bébé éventuellement.
Ça pourrait donc.
Et ça a été refusé parce que ça évoque pour beaucoup une question du génisme, quoi.
Oui. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu le cas, mais ça remplacerait la sélection naturelle dans une procréation classique.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça remplacerait une sélection naturelle dans une lorsqu'un couple hétérosexuel fait l'amour pour avoir un bébé. Mais étant donné qu'on a constaté beaucoup dans le cadre de la PMA de fausses couches, de... de demande d'interruption thérapeutique de grossesse parce que effectivement on a transplanté un embryon qui avait ses gènes défectueux. L'idée était d'éviter ce genre de choses, ce genre de souffrance. Comme pour le diagnostic prénatal, qui se fait lorsque la femme est déjà enceinte, l'argument était ben, on va éviter en faisant cette sélection in vitro à ce qu'éventuellement la femme soit obligée d'avorter ou alors fait une fausse couche. Il y a beaucoup de femmes dans les protocoles de FIV qui font fausse couche après fausse couche. Et en fait, certaines spécialistes disent qu'il suffisait de bien choisir l'embryon qui n'avait pas ses défets chromosomiques en amont.
Mm-mm. Écoutez, Jennifer Merchant, je vous propose de revenir un petit peu plus tard au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire. Pour l'heure, la sécurité sociale a été proposé que la sécurité sociale rembourse toutes les PMA. Est-ce que, d'après vous, ça fait partie de ses missions à la sécurité sociale ?
Absolument. À partir du moment où l'infertilité ou les troubles d'infertilité n'est plus un critère pour accéder à la PMA, il n'y a pas de raison que la sécurité sociale ne rembourse pas. À partir du moment où les couples hétérosexuels bénéficient d'un remboursement lorsqu'ils entament une procédure de FIV, il n'y a pas de raison qu'un couple lesbien ou qu'une femme seule n'ait pas accès à ces remboursements. Si cela était le cas, ce serait une discrimination que beaucoup de juristes ont pointé lors des discussions.
Mais dans le cas, j'approfondis un petit peu, hein,
oui.
Dans le cas d'une procréation médicalement assistée pour un couple hétérosexuel qui est diagnostiqué infertile, on peut le diagnostiquer infertile. Dans un couple homosexuel, le couple sera forcément infertile, quel que soit le diagnostic.
C'est infertile parce qu'il n'y a pas de moyen pour biologiquement pour la femme de procréer.
Mais dans un cas, c'est une pathologie et dans l'autre, non.
Alors, d'abord, dans le cas des couples hétérosexuels, il y a un fort pourcentage, je pense que ça peut aller jusqu'à 40%, d'inconnus. C'est-à-dire que l'infertilité, on n'arrive pas à le constater pathologiquement. Il n'y a pas de trompes qui sont bouchées, la spermographie du monsieur est bon. On n'arrive pas tout simplement à expliquer jusqu'à 30, voire 40% des cas d'infertilité. Donc là, déjà, le bas blesse, si vous voulez. L'infertilité peut être diagnostiquée, mais il peut aussi ne pas être diagnostiqué, mais quand même, ça n'empêche pas les couples hétérosexuels d'avoir accès et d'être remboursés. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Ensuite, si on définit l'infertilité comme étant purement pathologique, à ce moment-là, la loi française, on ne devait pas ouvrir aux femmes lesbiennes et aux femmes seules l'accès à la PMA. Mais à partir du moment où cette infertilité-là, comme a dit votre collègue dans l'introduction, n'est plus un critère, il n'y a pas de raison pour que la sécurité sociale discrimine contre les femmes en couple lesbien ou contre les femmes seules. Ça n'a pas de logique, si vous voulez.
Je comprends. Dans ce cas, on ouvre un nouveau débat. C'est le débat du droit à l'enfant. Et pour ça, je vais vous faire écouter Agnès Buzyn, donc l'ancienne ministre de la Santé, tout de suite.
Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Parler de droit à l'enfant, c'est insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Dire cela, c'est dénigrer le projet parental.
Donc c'était Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que pour vous, il existe ce droit à l'enfant ?
Non. D'abord, juridiquement parlant, nulle part, on trouve dans les textes législatif ou dans les décisions des tribunaux, le terme « droit à l'enfant ». Ça n'existe pas. On pense, par exemple, je vais vous donner un exemple, aux États-Unis, on pense que le droit à l'enfant existe parce que tout le monde peut accéder à la PMA au nom de ce droit à l'enfant. Ce droit à l'enfant n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de droit à la procréation. Autrement dit, il n'y a pas de droit juridiquement ou législativement établie qui dit explicitement que les Américains ont ce droit. Non, il y a surtout aux États-Unis un droit, il y a seulement, je dirais, aux États-Unis un droit à la non-procréation. Là, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, droit à la contraception, droit à l'avortement. Mais le contraire n'existe pas dans les textes américains. Et de même, cela n'existe pas en France ni dans aucun pays européen. Ce droit à l'enfant est un fantasme qui est mis en avant pour diminuer le désir d'enfant des couples homosexuels et ou des femmes seules, et je dirais même des couples, oui, des couples homosexuels femmes et hommes, parce qu'on va en venir à parler de la GPA. Il s'agit de faire peur aux autres, aux gens, aux hétérosexuels surtout, de dire, ah oui, bah, eux, ce n'est que un espèce de droit qu'ils inventent, qui n'existe pas et qui mettent en avant alors que ça n'existe pas. Donc, je suis d'accord avec Agnès Buzyn, il n'y a pas de droit à l'enfant. Et j'irai plus loin en disant, souvent, on entend l'argument selon lequel les couples homosexuels sont égoïstes en voulant accéder à la PMA comme les couples hétérosexuels et qui veulent justement mettre en avant ce droit à l'enfant, ce qu'ils ne font pas. On n'entend pas du tout ce genre de terme dans les associations de couples de même sexe. Et donc cette attaque de soi-disant de leur poussée égoïste à avoir des enfants est quelque chose qui est assez risible, puisque la plupart des couples, sauf si c'est un accident bien sûr, ont un projet parental et en cela est en train d'exprimer leur désir à eux, ce qui peut être interprété comme étant une forme d'égoïsme. Ils ne sont pas en train de penser à l'enfant à venir, ils sont en train d'exprimer dans leur projet parental, que ce soit fait par voie naturelle ou par PMA, un désir que le couple a à avoir un enfant. Donc, je suis absolument contre l'instrumentalisation de cette expression « droit à l'enfant » que je trouve assez lamentable.
Après les droits de l'enfant, je vous propose de passer au droit de l'enfant. Après le droit oui. à l'enfant, je vous propose de passer au droit à 1, 2, 3. Après le droit à l'enfant, je vous propose de parler du droit de l'enfant et notamment de l'enfant issu d'un couple homosexuel, donc qui aurait eu recours à la PMA. Avec donc un donneur qui actuellement est anonyme. Alors il a été question aussi dans cette révision de la loi, qui n'est pas encore passée, puisque là elle va être en deuxième lecture au Sénat prochainement. Oui. Les manifs vont commencer samedi.
Oui, ce samedi, oui.
Et donc dans le cadre d'une recherche généalogique, on imagine, d'un enfant issu d'un couple homosexuel qui un jour deviendra un jeune adulte, est-ce qu'on peut interdire à un jeune adulte de connaître son donneur ?
Alors, on l'a fait jusqu'à présent, et en France, et on est en train de changer avec cette possibilité à l'âge de 18 ans, si le donneur, évidemment, donne son accord, à ce que l'enfant connaisse ses origines. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose sur le plan psychologique, sur le plan du bien-être. On a vu avec des enfants adoptés que souvent, presque la majorité se pose la question et un jour veulent retrouver leurs enfants, leurs parents de naissance. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour un enfant né par donneur. Ce droit que cet enfant aura avec si cette révision passe dépend évidemment sur le bon vouloir des parents. Est-ce qu'ils vont le dire à leurs enfants, nés par PMA avec don, qu'il a été conçu de cette façon-là. C'est possible que beaucoup de parents ne le disent pas encore, alors que beaucoup d'études à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis montrent que pour le bien-être de l'enfant, la transparence, la vérité est la chose la plus importante. Moi, je reviens donc à cet enfant-là qui a 18 ans. Si ses parents ne lui ont pas dit, il ne le sait pas, il y a toujours le problème, ce qu'on appelle les secrets de famille qui sortent n'importe quand, n'importe comment. Donc ça, c'est un traumatisme, ça peut être un traumatisme très grave. Et en plus, je rajoute que même si l'enfant soupçonne quelque part qu'il a été issu d'un don, avec les moyens qu'on a aujourd'hui d'Internet et de tests génétiques, cet enfant pourrait très vraisemblablement finir par trouver ses parents d'origine, comme on a vu récemment, l'année dernière, avec le directeur de l'association Procréation Médicalement Anonyme a pu retrouver son père en croisant des données génétiques d'un cousin et après avoir effectué une recherche avec 23andMe, cette société américaine privée, il a fini au bout de 4 mois à trouver son père d'origine, qui était très heureux de le rencontrer. Ça peut aussi mal se passer, mais la démarche de l'enfant à 18 ans doit être respectée et si possible aussi encadrée et accompagnée par des psychologues le cas échéant.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais terminer, avant d'écouter l'actualité scientifique de ce mois-ci, en vous demandant quelles sont les limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un fœtus humain dans un cadre commercial et dans un cadre scientifique, puisque c'est différent.
Alors, dans un cadre commercial, vous pensez bien sûr à ce qu'on fait aux États-Unis, que la plupart des PMA, c'est effectué par des sociétés privées. Il y a des centres de fertilité qui proposent de choisir l'embryon avec le sexe désiré. Vous pensez à cela, je pense.
Oui, puisque d'accord. Pour l'instant, en France, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. Non. Ça n'arrivera peut-être jamais, d'ailleurs.
J'espère. Je pense que la situation américaine est catastrophique. Je pense que, en fait, le fait que ça soit laissé au marché privé depuis le début, hein, et qu'il n'y ait jamais eu de cadre national. Bon, ça se comprend, le pays est grand, c'est un système fédéral qui donne plutôt, dans le domaine du droit de la famille, le pouvoir aux États indépendants. Mais bon, d'un point de vue éthique, je pense que c'est une catastrophe, et on se retrouve dans beaucoup de cas devant les tribunaux pour des questions d'erreur ou pour des questions de recherche en paternité, justement, de recherche de frères et sœurs. Je pense que ça a été une catastrophe de laisser le marché privé lancer ce recours à la PMA. Contrairement à la France, qui jusqu'à présent, évidemment, a été extrêmement strict, limitant le pouvoir aux médecins de décider qui est l'embryon, etc., limitant aux couples hétérosexuels seuls l'accès à la PMA. Maintenant, c'est en train de s'assouplir un petit peu et ça va dans le bon sens. C'est considéré, en fait, et c'est ça la grande différence avec les États-Unis, c'est considéré comme une question de santé publique. La reproduction humaine de la société française, et pas comme étant un désir individuel comme aux États-Unis, où d'ailleurs seules les personnes riches ont accès, parce que ça coûte énormément cher.
Il me semble que c'est de l'ordre de 30 000 dollars, c'est ça ?
Minimum.
Minimum.
Minimum pour un simple fécondation in vitro, pour un couple hétérosexuel, minimum. Après, il y a beaucoup de... Pardon,
sachant que il me semble très peu de, enfin, les taux de réussite sont quand même assez faibles, en dessous de 50%.
Oui. Et bon, le marketing de ces agences n'est pas contrôlé. Ils affichent des chiffres de réussite qui sont pas en accord avec la réalité parce qu'ils les trafiquent comme ils veulent. Enfin, il y a évidemment au niveau national, il y a ce qu'on appelle des guidelines. Il y a des sociétés savantes qui disent il faut pas, par exemple, réimplanter plus de 3 embryons. Il y a des tas de choses qu'on peut facilement trouver, mais ce ne sont pas des règles contraignantes. Ce sont juste des suggestions des sociétés savantes spécialistes de l'infertilité. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. La seule bonne chose qui existe aux États-Unis, c'est qu'il y a un registre national qui demande chaque année, selon des critères très précis, justement développés par ces sociétés savantes, qui demandent aux cliniques qui pratiquent la PMA sous toutes ses formes d'envoyer leurs statistiques de réussite, mais même plus que ça, qu'est-ce qui a été utilisé, des ovocytes congelés, pas congelés, une femme porteuse, pas porteuse, couple homosexuel, hétérosexuel. Et toutes ces essais cliniques, envoie cette information à l'agence fédérale qui est the Centers for Disease Control, et ensuite ces données clinique par clinique, il y en a à peu près 490 aux États-Unis, ces données sont mises en ligne pour que les futurs patients peuvent consulter pour voir quel est le taux de réussite dans la clinique qui est à côté de chez eux, etc. Maintenant, le fait d'envoyer ces données n'est pas obligatoire, mais on constate que 90% des cliniques américaines le font. Pourquoi ? Parce que s'ils ne le font pas et s'ils ne figurent pas sur ce registre national, eh bien, les patients ils vont dire « Oh, ben, cette clinique-là, elle n'a pas voulu être transparente. » Donc, elle perd, si vous voulez, ses clients à ce moment-là. Donc, ça, c'est une très bonne chose, je trouve, qui a été mise en place tardivement, mais mise en place quand même. Et mais n'empêche que moi, je préfère le modèle français où c'est pris en compte comme étant une question de santé publique et où le ministère de la Santé, l'agence de biomédecine, tout ça, toutes ces agences importantes, ces institutions importantes veillent et encadrent ces pratiques. Je trouve que c'est extrêmement important, ça.
Merci beaucoup, Jennifer Merchant. Nous allons aujourd'hui prendre des nouvelles d'une dame qui est en ce moment soumise à rude épreuve. Cette dame, c'est la science et c'est Guillaume qui va nous en parler.
Bonsoir Gaspard, ce soir nous allons commencer par boire la tasse en allant sur Mars. Cela fait plusieurs années que l'on parle d'eau sur cette planète, et c'est à juste titre. Si aujourd'hui notre voisine nous apparaît comme froide, aride et hostile, elle a pendant quelque temps abrité de l'eau sous la forme liquide. C'était il y a 4 milliards d'années, l'atmosphère était humide et chaude et permettait à Mars d'abriter l'eau sous ses trois formes, solide, liquide et gazeuse. Il semble que des vestiges de cette époque soient encore présents, car une équipe de chercheurs de l'université de Rome 3 a la preuve que plusieurs lacs sont encore présents sur Mars, dont un de 20 km de largeur au niveau de son pôle sud. C'est bien entendu un lac souterrain. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne pêche pour les futurs astronautes qui iront sur Mars. Quittons Mars et revenons maintenant sur Terre pour parler d'intelligence artificielle. Si je vous disais qu'une IA arrivait à dessiner le visage d'une personne à laquelle vous pensez, vous ne me croiriez pas. Eh bien, vous avez raison. Fin de chronique. Je plaisante. Il fallait me croire. Des chercheurs de l'université d'Helsinki en Finlande ont mené une petite expérience. Ils ont montré à un groupe de volontaires une grande quantité de photos de visage, tout en effectuant un électrocardiogramme des volontaires. Après cette phase qui permet de calibrer l'IA, ils ont demandé aux volontaires de penser à une personne ayant tel ou tel trait de visage. Par exemple, une vieille dame ou un enfant. Et dans 83% des cas, l'intelligence artificielle arrivait à dessiner les traits du visage auxquels les volontaires pensaient. Ce détail n'a pas été publié dans l'étude, mais si vous voyez le visage de votre amoureuse ou de votre amoureux et que votre cœur s'emballe, pas sûr que la machine arrive correctement à là où le dessiner. À présent, parlons d'un sujet qui n'est pas encore pris au sérieux par la communauté internationale. Non, je ne parle pas de Donald Trump, mais des émissions de CO2. C'est un nouveau rapport de l'Oxfam qui nous apprend que 10% de l'humanité est responsable de plus de 50% des émissions de CO2. Malheureusement, rien de nouveau car nous savons déjà cela. Le problème que ce rapport met en avant est le fait que les pays du Sud sont en train de polluer beaucoup plus qu'avant. Les pays du Nord, bien que toujours très pollueurs, sont sur la voie d'une amélioration de la qualité de l'air, alors que les pays du Sud ne sont pas du tout sur cette tendance, notamment l'Afrique et l'Inde. Cela provient du fait que pour se développer, il faut consommer, et les pays du Sud n'ont pas non plus accès aux mêmes infrastructures que les pays développés qui permettent d'émettre moins de CO2. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec votre pause musicale. We'll be right back.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
De retour dans l'atome de savoir, ce soir nous parlons bioéthique avec Jennifer Merchant, qui est enseignante-chercheuse à l'université Paris 2 Panthéon Assas et qui travaille depuis 25 ans sur les enjeux sociopolitiques de la bioéthique. Jennifer Merchant, si la loi était plus permissive, la loi que nous révisons actuellement, comme dans certains autres pays, pensez-vous que les scientifiques, au nom de la loi, iraient jusqu'à faire des recherches immorales ou non éthiques ?
Oui, alors c'est une question qui est très importante, étant donné que j'ai été à Hong Kong lorsque le chercheur chinois... Je faisais partie du groupe de travail, du groupe organisateur du deuxième sommet sur la modification du génome humain. Et nous étions tous, je ne sais pas, et ça n'a pas eu beaucoup d'écho en France, je ne comprenais pas très bien. Nous étions tous estomaqués lorsque un chercheur chinois qui devait venir parler d'une chose nous a annoncé au contraire que venaient de naître deux bébés qu'il avait génétiquement modifiés. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il a voulu faire, mais ces bébés étaient bel et bien nés dans une province de Chine et nous étions tous choqués. Toute la communauté scientifique qui était là, et je parle aussi bien des sciences dures que des sciences humaines, était estomaquée. Et depuis, nous avons pris connaissance, nous avons réalisé que ce qu'on appelle des scientifiques immoraux, in English they're called rogue scientists, sont actuellement en train, pas seulement le chinois, mais il y a un russe en ce moment qui est en train donc de faire quelque chose qui est internationalement condamné, à savoir non pas des recherches sur l'embryon, mais recherche et modification de l'embryon avec implantation dans une femme et naissance d'un enfant. Ça, il y a un consensus international là-dessus. Il n'y a pas de droit international, par contre, donc il n'y a rien de contraignant. Et c'est pays par pays qui gère ce genre de situation. En France, je pense que, à titre vraiment de par ce que j'observe en tant que membre du comité d'éthique de l'INSERM, je ne pense qu'il n'y a aucun Français, aucun scientifique français qui est en train de faire ce genre de choses. Aux États-Unis, je ne mettrai pas ma main en feu pour dire la même chose. C'est un problème. Mais on ne peut pas l'ignorer simplement en disant c'est un problème, on ne peut rien y faire, on ne peut pas le contrôler. Il faut continuer à essayer d'avoir des normes inscrites, des normes obligatoires internationales au niveau de la modification du génome humain. C'est quelque chose que je fais à mon petit niveau dans une association qui est ouverte à tous, qui s'appelle ARIJ. Je peux vous envoyer le lien, comme ça vous pouvez le mettre sur votre site après. C'est une association internationale qui œuvre pour la recherche éthique et pour l'interdiction d'implanter des embryons dans des femmes pour qu'ensuite ces femmes donnent naissance. C'est aussi quelque chose que je fais à travers mes publications sur l'importance de l'engagement public dans ces discussions. Et donc, il ne faut pas simplement dire « oui, ça va se faire, de toute façon, on ne peut pas contrôler tous les scientifiques ». C'est vrai, on ne peut pas, mais si on prend cette attitude-là et on n'essaye pas de vrai quand même à les contrôler, à encadrer cette recherche, c'est simplement se résigner à cette réalité de scientifiques immoraux et ce n'est absolument pas la bonne solution pour ce type de problème très épineux. Maintenant, il y a deux enfants dont on sait, deux enfants filles en Chine qui ont été modifiés génétiquement. On ne parle pas de leurs droits à eux, on ne parle pas de est-ce qu'on va les suivre, est-ce qu'on va s'en occuper si jamais elles tombent malades. On ne connaît pas les effets secondaires de ce qui a été fait sur elles lorsqu'elles étaient embryons. C'est une catastrophe éthique totale, totale. Donc, on ne peut pas juste fermer les yeux et mettre la tête dans le sable. Il faut justement, au contraire, redoubler d'efforts pour empêcher de plus que possible que d'autres scientifiques font la même chose.
Très bien. Alors, moi, j'ai entendu, je me suis pas mal renseigné sur le sujet, donc quand j'ai lancé cette émission de la PMA et des droits qu'on a sur les fœtus, j'ai entendu un signal faible d'une personne qui comparait les droits sur le fœtus animal et les droits sur le fœtus humain, et qui exprimait sa peur que un jour les scientifiques aient plus de droits sur le fœtus humain que sur les fœtus animaux.
C'est-à-dire que les scientifiques pourraient expérimenter plus largement sur les embryons humains que sur embryons animaux.
C'est ça.
Bah, en France, ce n'est pas le cas, puisque il faut...
C'est une crainte de dérive suite à cette loi, puisque c'est une loi, la loi bioéthique qui est révisée tous les 7 ans.
D'accord,
et d'année en année, voyant les droits s'élargir sur la PMA et sur tout ce qui est concerné par cette loi.
Oui, je comprends. Alors, il y a deux choses, je pense. La première chose, c'est que la science dans ce domaine avance à un pas incroyable. On a fait tellement de progrès dans le domaine de la reproduction humaine depuis 50-60 ans que depuis le début de la recherche scientifique dans ce domaine. Donc, il y a quand même la nécessité pour la société de suivre ces avancées scientifiques et de les encadrer. Je reviens toujours à ce terme d'encadrement, de régulation. On ne peut pas ignorer les avancées de la science et on ne peut pas les empêcher non plus. Il y a une liberté de recherche scientifique, mais on peut l'encadrer comme on fait en France, par exemple, avec la recherche sur l'embryon. Si c'est vrai qu'on a ouvert encore un peu plus la porte pour les chercheurs français d'expérimenter sur les embryons, c'est en raison, il me semble, des nouvelles découvertes qu'on a trouvées et des nouvelles recherches qu'on veut faire pour améliorer le taux de PMA, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose d'alarmant en ce qui me concerne, à partir du moment où il y a un État bienveillant qui surveille, qui encadre et qui avance en même temps que les avancées scientifiques. Maintenant, aux États-Unis, pour revenir encore aux États-Unis, la situation est très différente et plus inquiétante, je pense. Les recherches sur l'embryon tous azimuts, dans n'importe quel domaine, sont interdites si ces recherches utilisent l'argent public, si ces recherches utilisent l'argent des impôts payés par les Américains. En revanche, il n'y a aucune interdiction pour les sociétés privées de procéder à de telles recherches, des recherches expérimentales très, très poussées ou ce qui peuvent nous paraître comme étant non éthique. Et ça, c'est un problème de la société américaine en général. Ça vaut pour la PMA aussi. Vous voyez, c'est le public et le privé. Le public, on interdit. Le privé, on autorise. C'est quelque chose que je redoute énormément. Mais encore une fois, j'insiste, il ne faut pas restreindre la liberté de recherche scientifique.
Je pense qu'on vous a entendu et je vous propose de revenir sur le diagnostic prénatal et préimplantatoire puisque je vous l'avais promis. On en a parlé donc un petit peu en début d'émission, mais pour vous, est-ce que le DPI pourrait devenir une porte ouverte à l'eugénisme dans les prochaines révisions, par exemple ?
Alors, il faut savoir qu'on peut faire le DPI en France. On a commencé à l'autoriser pour diagnostiquer des maladies très, très graves. Comme par exemple Huntington's disease, la maladie de Huntington ou la mucoviscidose, c'est-à-dire éviter de retransplanter un embryon qui est porteur de cette maladie parce que ce sont des maladies horribles que l'enfant va vivre à sa naissance et même va mourir très, très jeune. Cette pratique en Angleterre, par exemple, a maintenant été aussi autorisée et a été maintenant étendue à certaines formes de cancer graves. En France, pas encore. Mais je pense qu'on va y aller petit à petit parce qu'on n'a pas le droit, si on a la technique, de dire à des parents, vous êtes porteur de telle affection grave, mais on ne peut pas vous dire si votre embryon est porteur ou pas. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas quelque chose supportable d'un point de vue humain. Maintenant, vers l'eugénisme. Encore une fois, il faut définir l'eugénisme. L'eugénisme est traditionnellement compris comme étant un projet étatique de contrôle de la qualité médicale, si vous voulez.
Qualité physique et mentale.
Physique, voilà, c'est ça, exactement. On n'a pas ça en France, ou alors si on l'a, parce qu'on encourage aujourd'hui, on encourage les femmes enceintes à partir d'un certain âge de faire un DPN pour savoir si elles sont porteuses d'un trisomie 21. Et 90% des femmes, 99% des femmes qui apprennent cela font une interruption médicalement, une interruption médicale de grossesse. Donc, à partir du moment où l'État, le gynéco, l'obstétricien que vous consultez vous dit, bon, vous êtes un petit peu âgé, vous avez 37 ans, vous avez des risques, est-ce que vous voulez faire ce test? On peut dire que c'est une forme d'eugénisme. Moi, je ne le dis pas. Moi, je ne le dis pas parce qu'on voit ensuite que 99% des femmes, des couples, disent, non, alors on met fin parce que nous ne tenons pas à faire venir au monde un enfant atteint de cette maladie.
Oui, c'est plus donc, pour le bonheur de l'enfant que pour améliorer l'espèce.
C'est ce que disent tous les sondages, toutes les enquêtes. C'est exactement cela. Ce n'est pas parce qu'il y a une volonté de créer des enfants parfaits. Et on voit ça aussi avec les autres maladies qu'on teste aujourd'hui par le DPI, avant l'implantation. L'idée selon laquelle les parents ne veulent pas faire venir un enfant qui est en mauvaise santé. Aucun parent ne veut faire venir au monde un enfant qui va souffrir. C'est difficile de trouver quelqu'un qui dirait le contraire, sauf dans certains milieux. Bon, on connaît ces milieux, on sait très bien que l'Église catholique interdit cela. Il y a certains groupes qui sont très vocaux à ce sujet et qui disent que, je pense à la Fondation Le Jeune, qui disent qu'un enfant né trisomique est un enfant comme un autre, ce que je conçois parfaitement, et que ces couples ou ces femmes n'avortent pas, je conçois parfaitement, c'est leur liberté de décision, mais il faut aussi reconnaître l'autre version des femmes, des couples qui ne veulent pas faire venir un enfant trisomique ou atteint d'une maladie grave. Pour l'instant, moi, je ne vois pas. Il y avait des projets, il y avait des États comme la Chine autrefois avec la politique de one child only. C'est fini. Mais ça, c'était dans ma définition à moi de l'eugénisme, c'était un État qui pratiquait l'eugénisme. Je ne vois pas ça ailleurs. Je sais que, par exemple, Jacques Tessard parle d'eugénisme démocratique. Et c'est intéressant comme concept. C'est-à-dire que chacun dans notre couple ou en soi envisage l'enfant parfait qu'on désire avoir. Et au fur et à mesure que ces tests vont devenir disponibles en DPI, etc., on va se tourner vers eux de plus en plus. Personnellement, lorsqu'il s'agit de maladies graves, d'affections graves, et que les parents ne veulent pas faire venir au monde cet enfant qui sera atteint, je ne suis pas contre. Maintenant, tout le problème, toute la question est de savoir qui définit ce que c'est une maladie grave, une affection grave, surtout si on va augmenter le nombre de tests de DPI par rapport à telle ou telle affection. Par exemple, aux États-Unis, il y a une association très, très active de personnes sourdes et muettes, qui, eux, ne veulent pas du tout que la société encourage l'élimination des embryons qui sont génétiquement atteints par la surdité et qui disent, nous formons une communauté très, très bien, nous communiquons très, très bien et c'est une forme d'eugénisme de nous encourager à avorter ou à ne pas implanter un embryon qui serait atteint de la surdité. Je conçois cela parfaitement. C'est quelque chose que j'accepte et je conçois complètement. En même temps, il faut aussi laisser les couples qui sont face à ce dilemme, s'ils ne veulent pas faire venir au monde cet enfant sourd et ou muet, ils devraient avoir parfaitement le droit de ne pas implanter l'embryon ou après un DPN de procéder à un avortement thérapeutique.
Jennifer Merchant, on arrive au bout de notre entretien, merci beaucoup. J'ai une dernière question à vous poser. Alors, on a parlé d'eugénisme, on a parlé un petit peu de transhumanisme, du cadre juridique. Maintenant, un petit peu de santé publique, puisqu'on sait que la PMA, bien pour qu'elle soit bien menée, la femme a besoin de prendre, la femme qui fait cette PMA a besoin de prendre beaucoup de médicaments, notamment des hormones. Et au vu de l'impact des médicaments à base d'hormones sur la santé et l'environnement, faut-il vraiment encourager la PMA ?
Je suis d'accord avec vous. On n'a pas assez de recul, mais on commence à en avoir sur la prise de ces médicaments sur les femmes en parcours PMA. Il y a des risques d'hyperstimulation ovarienne. Il y a eu quelques cas de mort aux États-Unis. À ma connaissance, en France, pas de décès. On commence seulement à avoir des études scientifiques qui montrent que ça peut avoir des effets néfastes, mais pas au point de ne pas proposer la PMA. Je ne pense pas qu'on encourage la PMA. Je pense que la plupart des gens, ils ont envie d'avoir un enfant sous les draps, quoi. Ils ont envie de créer leur enfant sous les draps. Et ils se tournent vers la science lorsqu'ils n'arrivent pas. Et ils sont informés et ils consentent au traitement qu'ils vont prendre. Maintenant, je suis aussi d'accord avec vous qu'il n'y a pas assez d'études faites, mais ça commence, sur ces femmes. Et par exemple, aux États-Unis, c'est que très récemment, en France, alors qu'en France, on le fait depuis le début, aux États-Unis, ce n'est que depuis très, très récemment qu'on oblige une suivi de la femme bien après la naissance de son enfant. Voire 10 ans, 20 ans après, pour savoir s'il y a eu des cancers, qu'elle a pu développer, etc. C'est très récent et c'est néfaste que ça soit venu si tard. En France, en revanche, ces patientes sont suivies. Donc, encourager la PMA, je ne pense pas. Des risques, il y en a partout, mais les études, la plupart des études montrent que pour l'instant, il n'y a pas raison d'arrêter ces pratiques. Il n'y a pas de raison valable de santé publique pour arrêter ces pratiques.
Merci beaucoup, Jennifer Merchant, d'avoir répondu à nos questions. Nous verrons donc ce qu'il adviendra de cette loi bioéthique dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, au cours de sa deuxième lecture au Sénat. Et puis nous verrons aussi ce qu'il adviendra de cette nouvelle réglementation, de cette nouvelle révision de la loi bioéthique. Bonne soirée à vous.
Absolument. Merci beaucoup à vous et bravo Radio Campus.
Tout de suite, on retrouve Lou pour sa chronique de vulgarisation.
Quand on parle d'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire, soyons clairs, d'énergie solaire, tout le monde ou presque pense aux gros panneaux basiques que l'on trouve dans des centrales photovoltaïques paumées au beau milieu de la pampa. Et pourtant, nombreux sont les objets qui fonctionnent selon cette technologie, que ce soit un barbecue, une tondeuse, une lampe, un chargeur et j'en passe. Mais pour faciliter la compréhension, et aussi parce que ça reste du panneau solaire à petite échelle, concentrons-nous sur les panneaux photovoltaïques. Comment fonctionnent-ils ? Eh bien, cela vient d'un matériau de première importance, le silicium qui le compose et qui est un semi-conducteur produit à partir du sable. Le silicium est constitué d'atomes autour desquels gravitent des électrons. Exposés à la lumière, ces électrons, c'est-à-dire des charges élémentaires négatives, s'agitent et passent d'un atome à l'autre. Cette agitation, c'est elle qui nous intéresse. Car si elle ne crée pas la précieuse électricité recherchée, elle en donne l'impulsion. De fait, sans contrôler le sens de circulation de ces électrons, il sera impossible d'obtenir un courant électrique. Pour ce faire, leur circulation doit être dans un sens bien précis. Et pour cela, on va doper le silicium, c'est-à-dire dissocier le panneau solaire en deux couches. Une couche avec un surplus d'électrons et l'autre un déficit d'électrons. On introduit également des éléments imparfaits dans ces couches. Pour celles en surplus, on a ajouté du phosphore, matériau bien plus riche en électrons que ne l'est le silicium. Celles en déficit héritent, elles, de bore, c'est-à-dire d'un matériau beaucoup plus pauvre en électrons que le silicium. La première couche, si elle est en surplus, devient ainsi négative lorsque la seconde, en déficit, devient positive. Le panneau solaire se transforme en pile géante. Il suffit ensuite de relier ces deux couches entre elles par un fil et de brancher le tout à une ampoule. Lorsque le soleil vient les frapper, les électrons s'activent et se mêlent entre eux tout en respectant le circuit donné. Et qu'obtient-on ? De l'énergie solaire. De là à pouvoir s'approvisionner exclusivement en électricité ? Eh bien, la réponse tend vers le non. Malheureusement, cette technique appelée aussi homojonction ne permet pas d'utiliser plus de 15% de l'énergie produite par le dit panneau. C'est pourquoi les scientifiques travaillent à une nouvelle façon de doper, encore une fois, ces panneaux solaires. Fabriqués de couches, mais de silicium de nature différente. C'est ce qu'on appelle l'hétérojonction. Mais même si l'énergie solaire ou photovoltaïque est jugée comme écolo, les différents outils, comme les panneaux solaires dont nous servons pour capter cette énergie, ne sont pas le top pour l'environnement non plus. En effet, on a beau capter une ressource considérée comme inépuisable, les rayons du soleil, à l'échelle d'une vie humaine, le silicium dont il est besoin reste difficile à extraire, bien qu'extrêmement présent à la surface du globe. En effet, une forte consommation d'électricité et un bon nombre de produits chimiques sont nécessaires pour s'approprier le précieux matériau. De plus, ce produit nécessite l'utilisation d'argent pour les connecteurs électriques, sachant que les réserves en la matière sont relativement peu importantes. De là à jeter en bloc le panneau solaire ? Restons pragmatiques. Non, le panneau solaire n'est pas à 100% écolo, mais oui, il s'agit d'une des meilleures solutions envisageables sur le marché. Si vous ne vous êtes pas fait arnaquer, vous amortirez au bout de 3 ans l'énergie utilisée pour sa fabrication, sachant que sa durée de vie moyenne est de 25 ans. De plus, une fois mort, étant à 75% composé de verre et le silicium pouvant être réutilisé jusqu'à 4 fois, le panneau solaire peut être soumis à une multitude de techniques de recyclage, imparfaites certes, mais tout de même efficaces.
Merci Lou, merci à tous d'avoir participé à cette émission, première émission de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis. L'Atome de Savoir revient le 5 novembre à 20h sur Radio Campus Paris, toujours. En attendant, vous pouvez nous réécouter en podcast sur radiocampusparis.org/l'atome de savoir. Et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et un compte Instagram tenu par Johanna Blin, notre formidable attachée de production. À la réalisation ce soir, nous étions deux, Bruno Liuzzi et moi-même. À dans un mois, et en attendant, restez curieux et portez-vous bien.